Chapitre 4. On ne gouverne pas une république 20 ans et plus sans être en butte à toutes les calomnies, sans subir tous les outrages. Combattu dans ses actes publics par les orateurs de l'Assemblée, Périclès était attaqué dans sa vie privée par les meneurs de l'Agora et par les poètes comiques, ses journalistes et ses pamphlétaires du temps. Sa liaison avec Aspasie était un intéressable sujet de moquerie et d'allusions blessantes. On appelait Aspasie l'Héra du Nouvel Olympien, l'Omphale et la Déjanire du Nouvel Héraclès. On accusait la Milésienne de faire de la maison de Périclès le roi des satyres, comme disait Hermippe, un véritable dictérion rempli de courtisanes de toutes sortes et même d'Athéniennes mariées qui, par leur complaisance, aidaient à la fortune politique de leur mari. D'après le bruit public, la femme de Ménippos avait ainsi obtenu pour lui le grade de stratège. Aspasie était le mauvais démon de Périclès, l'inspiratrice de sa politique imprudente et de ses actes arbitraires. Les grandes dépenses dont Périclès grevait le budget de la cité pour donner des travaux à ses amis comme Phidias, son népotisme à l'égard de ses familiers, Pyrilampos, Carinos, Ménippos. Ce dernier, contrairement au principe de la démocratie athénienne, cumulait 5 ou 6 fonctions. On affirmait que Périclès était soumis à toutes les volontés d'Aspasie, qu'il était prêt à sacrifier pour elle la gloire et la prospérité d'Athènes. On insinuait qu'à son instigation, il rêvait la tyrannie. En 440, un différend surgit entre les Samiens et les Milésiens au sujet d'une petite ville du littoral asiatique, Priène, sur laquelle les premiers prétendaient avoir des droits. Une courte guerre s'ensuivit. Les Milésiens furent battus. Samos et Milet reconnaissaient toutes deux l'hégémonie athénienne. Les Milésiens portèrent leurs plaintes à Athènes, où l'on décida, sans rien préjuger, que les deux cités enverraient des ambassadeurs afin que le conflit fût jugé à l'assemblée du Pnyx. Les Samiens n'y voulurent point consentir, et prétextant qu'il y avait dans l'intervention d'Athènes un abus de pouvoir, ils se déclarèrent indépendants. Les Athéniens ne pouvaient souffrir une pareille défection où ils voyaient, avec raison, les intrigues de la Perse. Sur la motion de Périclès ou d'un orateur de son parti, un armement considérable fut aussitôt voté, dont Périclès lui-même prit le commandement. On dit, mais rien n'est moins prouvé, qu'Aspasie l'accompagna dans cette campagne avec un cortège de courtisanes qui firent de grands profits, car le blocus dura 9 mois. Après une défense opiniâtre, marquée par de sanglants combats, Samos capitula. Les Samiens durent raser leurs fortifications, livrer leur flotte de guerre et payer une indemnité de 1000 talents, près de 6 millions de francs. L'expédition contre Samos était juste et nécessaire. Athènes, qui tirait de si importants revenus des villes signataires du traité d'Aristide, devait maintenir ses tributaires dans l'obéissance. La révolte de Samos, restée impunie, eut entraîné d'autres cités à la défection. Au reste, cette guerre avait été glorieuse et avait affermi la puissance athénienne. De plus, elle n'avait rien coûté au trésor en raison de l'énorme indemnité payée par les Samiens. Mais des citoyens étaient tombés devant Samos et il faut compter avec les larmes des mères. On dit dans le peuple que cette guerre n'aurait pas eu lieu si Périclès lui-même ne l'eût provoquée en soutenant les prétentions des Milésiens. Or, comme Aspasie était de Milet, le bruit courut qu'il n'avait agi ainsi que d'après les conseils de cette femme, ardente à prendre les intérêts de sa ville natale et jalouse d'y faire connaître sa toute-puissance à Athènes. Quelques années se passèrent, puis arriva un jour où les insultes de la scène comique, les calomnies de l'agora et les interpellations véhémentes de la tribune ne suffirent plus aux ennemis de Périclès. Ils pensèrent à lui intenter un procès en action publique. Mais le grand homme d'État était encore bien populaire. Au défaut de Périclès, les mécontents conçurent l'idée de faire condamner ses amis les plus chers. C'était pour les meneurs de l'opposition une façon d'essayer leur force et aussi de déconsidérer Périclès. C'était un premier assaut donné à son crédit sur le peuple. On commença par provoquer un vote d'ostracisme contre le vieux Damon, qui avait été un des maîtres de Périclès et qui était demeuré son ami. On disait que, sous couvert de leçons de musique, il enseignait la politique. Souvent, on l'avait entendu déclarer que la tyrannie d'un homme éclairé est le meilleur des gouvernements. Damon fut banni. Peu de temps après, des derniers mois de 433 au premier mois de 432, les adversaires de Périclès, encouragés par ce premier succès, se concertèrent pour faire traduire simultanément devant les Héliastes, Phidias, Anaxagore et Aspasie. Phidias fut accusé de détournement. Suborné par quelque ennemi de Périclès, un praticien du grand sculpteur se présenta en suppliant devant les autels de l'Agora. Cet homme, qui s'appelait Ménon, demandait à être garanti contre les suites du procès qu'il voulait intenter à Phidias. On sait que l'accusateur qui n'obtenait pas le cinquième des suffrages encourait les peines les plus graves. Le peuple ayant donné cette immunité à Ménon, le misérable dénonça son maître comme ayant dérobé une partie de l'or que les trésoriers de la déesse lui avaient remis pour être employé à la statue Chryséléphantine d'Athénée. Devant le dicastérion, Phidias n'eut pas de peine à se disculper, car il avait ajusté les vêtements d'or de la déesse de telle façon que, sans détériorer la statue même qui était d'ivoire, on pouvait enlever tout le métal et le peser. Le sculpteur devait cette idée à Périclès, qui se défiait sans doute du caractère soupçonneux des Athéniens et qui, peut-être aussi, voulait que cette masse d'or, 40 talents d'or, plus de 2 millions de francs, pût, en quelque grave occurrence, servir à des dépenses de guerre. Phidias fut acquitté, mais ses ennemis lui intentèrent incontinent un nouveau procès sous deux autres chefs d'accusation. Il avait gravé son portrait sur le bouclier d'Athènes, sacrilège. Il avait reçu Périclès dans son atelier alors qu'il s'y trouvait des femmes, modèles ou visiteuses. Proxénétisme. Pendant l'instruction de ce second procès, Phidias, malade et profondément attristé, mourut en prison. Anaxagore fut traduite en justice pour cause d'impiété. Il semble que, jusqu'à cette époque, les tribunaux connaissaient seulement du sacrilège proprement dit, offenses publiques aux dieux, profanation des temples et des images divines, scandale pendant les fêtes, divulgation des mystères, parodie des rites. Mais les philosophes et les sophistes s'étant multipliés à Athènes, l'orateur Diophytès prit ce prétexte pour faire édicter une loi qui assimilait au sacrilège ceux qui ne croyaient pas aux dieux de l'État et qui s'occupaient d'étudier les phénomènes célestes. Cette loi, d'un caractère inquisitorial, menaçait tous les penseurs. Mais elle était principalement dirigée contre les amis de Périclès et de là contre Périclès lui-même. Si, comme on l'espérait, ses familiers étaient condamnés sur ce chef, on pourrait lui intenter un procès analogue. Anaxagore, qui professait ouvertement que le soleil est une masse de feu, la lune une terre habitée et le tonnerre un effet du choc des nuages, c'était bien là des impiétés, se déroba au jugement. Sur le conseil de Périclès, qui redoutait pour son ami une sentence capitale, il quitta furtivement Athènes. L'ailier le condamna par contumace. Comme Anaxagore, Aspasie fut accusée d'impiété. Elle avait des opinions contraires aux croyances de l'État. Comme Phidias, elle fut accusée de proxénétisme. Elle attirait chez elle des courtisanes et des femmes mariées pour les livrer à Périclès. Quelle preuve le poète Hermippe, qui intenta le procès, pouvait-il fournir de la culpabilité de la Milésienne ? Sur le premier point, il invoquait le témoignage d'un esclave qui avait probablement entendu Aspasie discuter ou plaisanter à l'occasion de quelques légendes sacrées. Sans doute aussi, il ne manquait pas d'alléguer qu'amis des philosophes, Aspasie devait nécessairement partager leurs idées. Sur le second point, Hermippe se bornait vraisemblablement à rapporter en les amplifiant les commérages de l'Agora. Ces calomnies, nous pensons que c'en était, avaient toutefois une apparence de vérité. Les Athéniens n'avaient point accoutumé de voir leurs femmes légitimes fréquenter des hétaïres. En recevant chez elles des femmes citoyennes, Aspasie s'était exposée à de graves soupçons. Quoi qu'il en fût, Aspasie courait un grand danger. Pour chacun des deux délits dont elle était accusée et qui étaient qualifiés crimes par la loi athénienne, elle était passible de la peine capitale. Aspasie aurait pu fuir avant le jugement. Sans doute Périclès aimait trop sincèrement sa maîtresse pour ne pas lui proposer de suivre l'exemple d'Anaxagore. mais la Milésienne comprit que quitter Athènes et se laisser juger comme contumax, c'était provoquer une condamnation certaine, c'était se séparer de Périclès. Et à ce moment-là surtout, le pauvre grand homme avait besoin de l'affection d'Aspasie. Il sentait l'opinion contre lui, on lui avait enlevé ses plus chers amis, enfin ses adversaires, enhardis, venaient de lui intenter un procès en reddition de compte, pour cause de péculat, de concussion et d'injustice. Aspasie se présenta courageusement devant les dicastes. Il paraît probable que Périclès plaida pour elle, car la loi n'autorisait pas la femme à présenter elle-même sa défense. En tout cas, Périclès intervint au cours des débats, suppliant les juges et ne craignant point de laisser voir ses larmes. Le tribunal acquitta Aspasie.